bienvenue à la deuxième journée de l'année de Comic-Con. Ah oui, c'est pas Raoua, je dis bêtise. On va faire une table ronde sur la traduction de Lovecraft avec quatre esprits créatifs vachement cool. Donc on va commencer par Sonia. Donc Sonia Kimener est traductrice, mais elle est aussi auteure de nouvelles publiées chez Le Peuple de Mu. Et donc Sonia a traduit avec Maxime Ledin un ouvrage chez Bragelonne qui reprend 9 textes essentiels de Lovecraft qui s'appelle Cthulhu le mythe. Ça va reprendre tout le mythe de Cthulhu dans son intégralité. On va en dire beaucoup plus tout à l'heure. En 2012, je crois. C'est ça. 2012. Entre autres, hein. Bah, parce que vous avez tous une liste de publications longues comme le bras. Donc Patrice Lounet, qui est ici, est traducteur et également essayiste. Donc Patrice Lounet vient de publier chez ActuSF une monographie de Howard.
Un guide Howard, sur Robert Howard.
Sur Howard, qui a eu des correspondances avec Lovecraft aussi.
Il a eu des correspondances.
Il a eu des correspondances, oui. Ils étaient correspondants, ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà.
Jamais
mais je n'ai jamais traduit Lovecraft.
Hein, donc, tu l'as jamais
traducteur. Voilà, je suis traducteur.
C'est déjà pas mal.
Il a relu mes traductions, une partie.
J'ai eu du boulot.
Nous avons David Camus, qui est traducteur et également auteur. J'ai noté. Donc, tu as traduit Les Montagnes Hallucinées chez Nemos en 2009.
Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que le recueil s'appelle Les Montagnes Hallucinées, ça reprend en fait tous les récits d'exploration de Lovecraft. Donc il y a les montagnes, il y a l'abîme du temps, il y a aussi la cité sans nom, etc. Et puis il y a tout le cycle des contrées du rêve. C'est-à-dire la plupart des nouvelles se déroulant dans les contrées du rêve, c'est-à-dire la recherche du Kadat et autres. Ce qui à l'origine était traduit en français là, par en gros Démons et Merveilles. Mais qui était un livre qui n'existe pas dans le corpus Lovecraftien. On en parlera plus tard.
Donc, Polaris également, tu es également écrivain, donc tu as écrit une nouvelle dans...
Non, mais si tu me lances là-dessus, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des nouvelles, j'ai été éditeur, je suis agent, etc.
Je sais bien, c'est pour ça que je disais, on a tous, vous avez tous une biographie longue comme le bras, et du coup... Et tu as bossé sur une BD avec Nicolas Fructus.
C'est vrai.
Oui,
on a adapté Lovecraft, on a adapté From Beyond pour un éditeur anglais. Ah, et puis il y a eu cette expérience extraordinaire qui était le Kadat, qui est un livre magnifique, tout un hommage à Lovecraft de quatre auteurs et Nicolas Fructus.
Dirigé par Raphaël Bernier-Cassenac, qui
était là avec
publié chez Mnemos en 2012.
C'est 2010.
Ça, 2010, ouais, 2010, ouais. Oui, 2010. C'est de ça dont je voulais parler en fait.
Ouais, c'est super.
Ouais. Et donc nous avons Christophe Thiel, qui est traducteur aussi, parce qu'on a bien fait les choses, qui est également éditeur. Donc tu as traduit avec Thomas Bauduret Les Montagnes Hallucinées, pour le coup, cette nouvelle-là, pour les éditions Libellus, qui sont une édition de livre 2.
Exactement. Donc c'est au lieu d'avoir une perspective écrite, contrairement à mon voisin, l'idée c'était d'avoir un texte qui soit lisible oralement, puisqu'il y a un comédien qui a travaillé, il y a eu des arrangements musicaux, il y a eu des bruitages, etc. Donc c'était plus dans cette perspective de l'oral.
Donc tu fais aussi partie du groupe The Live Ones.
Aussi. Qui est un groupe où il y a des gens, des auteurs qui lisent des textes, pendant que d'autres, qui peuvent être auteurs mais ne le sont pas forcément, les accompagnent musicalement, avec en partie improvisé, en partie préparé.
Et en tant qu'éditeur, avec ta maison d'édition Malpertuis, tu as publié HPM 2007, qui est une anthologie de nouvelles sur le thème de Lovecraft, et également Le Roi en jaune, qui est une des inspirations de Lovecraft avec Astur.
Que j'ai traduit.
Que tu as traduit. Donc... Maintenant que les introductions sont faites, on va peut-être parler de la première traduction de Lovecraft de Jacques Papy, qui a été complétée par Simone Camblin.
Lamblin,
pardon. Cette traduction a été réalisée donc, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, à partir des années
50. 50.
Non, c'est 54. Frère.
54. Et du coup, tout le monde a découvert Lovecraft à peu près par cette traduction.
Par Papy, oui, je pense.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette traduction ?
Mais c'est pas très sympa. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas hyper sympa de parler des prédécesseurs, parce qu'en plus, nous, on a quand même, enfin, je parle en notre nom à tous, mais vous me direz, on a un peu le bourreau ici. C'est-à-dire qu'on vient après, oui. ils ont déblayé le terrain et tout ça, ils se sont pris les pieds dans toutes les pierres, etc. Et puis c'était pas la même manière de travailler autrefois, c'est-à-dire que il y avait moins d'anglicisme, les directeurs d'ouvrage n'étaient pas forcément anglicistes, c'est-à-dire que Jacques Guamard, qui était le créateur de Pocket SF, par exemple, qui a publié du Lovecraft, n'était pas angliciste, et ça l'empêchait pas de reprendre les textes de ses traducteurs, et de les corriger à sa façon pour des critères qui n'appartenaient qu'à lui. Et en gros, la faute aujourd'hui en incombe au traducteur, c'est lui qui signe le texte, mais quand, je peux vous le dire, j'y étais, c'est le traducteur n'est pour rien. Vraiment, le traducteur n'est pour rien, ça n'empêchait pas Guamard d'intervenir. Alors, je dis ça parce que c'est un cas que j'ai vu, mais je pense que d'autres traducteurs ont subi les foudres aussi de leur éditeur. Et puis, il y avait aussi cette habitude qui consistait à sabrer absolument les textes pour des questions de longueur. C'est-à-dire souvent, on adaptait un texte au format que devait faire le livre, au nombre de pages que devait faire le livre. Et Lovecraft n'est pas le seul à l'avoir subi. Je veux dire, là, tous les auteurs publiés dans la série noire l'ont subi. Faire noir aussi, c'est-à-dire qu'un texte devait faire 180 pages. S'il en faisait 350, ben, on en coupait 170, si je ne me trompe pas dans les calculs. Donc évidemment, je veux dire, Papy, ce qu'on peut. D'ailleurs, Papy, il est lisible en français, c'est pas le pire. C'est, quand on lit Papy, en français, c'est lisible. Alors, c'est pas forcément tout à fait le texte, il n'y a pas trop d'erreurs, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est quoi? C'est que son texte en français est généralement plus court d'un tiers que le texte original. Alors, vous savez que quand on passe de l'anglais au français, généralement, on gagne à peu près 10%, on gagne. Le texte grossit 10%. Lui, curieusement, ce qui raccourcit. Et c'est vrai que dès qu'il y a des difficultés chez Papy, il passe. Alors comme en gros, Lovecraft n'est que difficulté.
Il y a un contexte d'époque, effectivement, que tu viens de rappeler, qui est celui éditorial et qui est valable, pour tous les auteurs par rapport à des zones de calibrage, etc. Soit, ouais. Certes, Papy était là le premier, mais je pense qu'il ne faut pas pour autant laver Papy de tous ses défauts par rapport à ça. C'est trop simple. Il a quand même pris beaucoup de raccourcis, on va dire, de raccourcis commodes que des questions de calibrage ne sauraient expliquer. Donc quand on voit une nouvelle, des nouvelles qui sont réduites de 30%, c'est juste, alors il y a parfois des questions de calibrage, mais grosso modo dès qu'il y a un terme difficile, alors je sais pas, un exemple, s'il y a un texte avec une carpe, la carpe devient un poisson dans le texte français, quoi. C'est à chaque fois, c'était, on va vers le plus générique, donc aller chercher un dictionnaire.
J'ai un exemple précis dans l'appel de Toulouse, tu as des trucs d'autres sphères qui deviennent des choses en forme de sphère. Il y a beaucoup d'exemples. Moi, ça me gêne énormément parce que je ne me sens pas forcément meilleur qu'eux.
Le problème, c'est que à la fois, on a tous découvert Lovecraft comme plein d'auteurs par ces gens-là, parce qu'ils étaient pionniers. Je veux dire, la première vague de traducteurs, enfin toute l'équipe, Bergier, Truchot, Papy, tous ces gens-là, sont des gens qui n'étaient pas anglicistes à la base, qui n'étaient pas forcément de bons traducteurs, mais si. Malgré ça, c'est grâce à ces gens-là qu'on est devenu qui on est aujourd'hui, très clairement, parce qu'ils nous ont communiqué une flamme, en tout cas en ce qui me concerne. Moi j'ai grandi avec les Ward de Truchot, avec les Lovecraft de Papy, j'en suis pas mort, et j'en suis même devenu plus amateur de ces deux auteurs que je pouvais l'être à une époque. Et quand j'étais ado, je dévorais cette lettrade de Papy, et je me rendais absolument pas compte des problèmes. Lovecraft arrivait à passer, malgré tout, derrière ses traductions.
Non, mais ça, ou le texte, enfin, je sais pas si par mes camarades, mais ça, bon, c'est une traduction de Bernard Noël.
Alors, 55. Oui.
55. Ben, voilà, tout ça pour dire. Enfin, Papy, c'est loin d'être le pire, mais Bernard Noël, je pense, c'est intéressant parce que, à mon avis, il ne connaît pas du tout l'anglais. Et quand un traducteur ne connaît absolument pas l'anglais et traduit, curieusement, vous allez voir que là où il se plante, c'est sur les mots faciles. Les mots faciles sont mal traduits quand les mots compliqués sont bien traduits. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va regarder de près dans le dictionnaire, alors que les mots faciles, il pense les connaître. Souvent, il se plante sur les mots.
C'est comme donner l'exemple le plus fameux de. Vas-y, je te laisse le faire.
Bah, c'est le Solong Carter. Solong, vous savez ce que ça veut dire ? Solong. Adieu, hein, qui est traduit, ben, so, il, voilà, non, il traduit si long Carter.
Moi, je trouve qu'il y a pire, hein. Il y a le coup où il est question d'un coup de cymbale qui devient des symboles. C'est quand même.
Mais le pire, faire. Si tu veux, mais ce qui est marrant, c'est que ce texte nous a quand même tous marqués, je sais pas si vous l'avez lu, puis rien que le titre. Mais il faut voir une chose, c'est que les quatre nouvelles qui sont dans ce recueil-là, bon, qui ont été. Qui a été composé donc, par les éditions des Deux Rives. L'ordre de publication là-dedans, c'est pas du tout celui de Lovecraft. C'est-à-dire que là, si vous le prenez, il place la nouvelle fondamentale, je pense pas au testament de Randolph Carter, mais à la recherche de Gadat. Et là, ce texte, la recherche de Gadat, clôt le.
C'est le testament ?
Le témoignage ?
Oui, t'as dit le testament.
J'ai dit le testament ?
C'est un mauvais traducteur. Hein. Bon. Statement devient testament.
Il faut savoir une chose, c'est que je me traduis mal, moi. Donc la recherche de Kadat clôt là l'ouvrage, ça se termine bien, Il faut savoir que chez Lovecraft, enfin dans ce texte-ci, quand c'est recomposé, c'est le premier texte, pas le dernier. Et, bon, je vous raconte la fin ou pas? Enfin, tout ça pour dire que ça ne se termine pas comme ça se termine ici, quoi, même à l'inverse. On a quand même tous lu ça, on a quand même tous été fascinés, on s'est quand même tous dit, oui, c'est un peu barré, mais c'est génial, c'est Lovecraft. Sauf que c'est peut-être pas si barré que ça, c'est génial en effet, mais c'est pas. C'est Lovecraft, c'est autre chose. C'est-à-dire vraiment, on se dit, ouais, ça n'a pas trop de sens, mais c'est Lovecraft. Ben non, ça a du sens, il faut revenir au texte anglais. Et un truc qui, moi, m'a fasciné, et ça, on s'en est aperçu assez vite quand on avait fait l'ouvrage Kadat, c'est qu'on a longtemps cru en France, et même la monographie consacrée à Lovecraft 69 par les éditions, par les Cahiers de Lerne, parle de Kadat comme d'une ville, parce que c'est ce qu'on voit là. C'est ce qui est dit là, hein, en permanence, c'est voilà, la ville Kadat. Sauf que quand on retourne...
La première phrase, est-ce que tu peux nous lire la toute première phrase du truc?
Je vous la lis. Donc, trois fois, Randolph Carter rêva de la merveilleuse Kadat, et trois fois, il en fut repoussé alors qu'il s'arrêtait sur la haute terrasse qui la surplombe. Et si vous prenez le texte en anglais, donc on est d'accord, la merveilleuse Kadat, machin, tout ça, si vous prenez le texte en anglais, vous allez voir, c'est assez rigolo. Allez, alors, je vais demander à quelqu'un avec un bon accent.
Non, justement.
Il va se
mettre
la gueule. Justement. Alors, three times, Randolph Carter dreamed of the marvelous city. And three times was it snatched away while still he posed on the high terrace above it. C'est city. Et alors, le traducteur, c'est ouais, city, on va être clair, on va mettre c'est Kadat. Ben non, parce que la cité n'a pas de nom. Kadat, c'est la montagne au sommet de laquelle se trouve la mystérieuse forteresse de Nyx où résident les dieux. La cité, elle n'a pas de nom. Enfin, on apprend à la fin qu'elle s'appelle la merveilleuse cité du soleil couchant, etc. Et on nous dit, le texte est d'une poésie, c'est stupéfiant comme c'est beau. Elle n'a pas de nom. Et donc, nous, on travaillait Kadat, la cité, on s'inspirait sur le truc, Kadat, la cité. Il n'y a qu'en France que Kadat soit la cité. Hein. Je ne vous raconte pas, moi, j'ai lu des commentaires étrangers sur nous. Je préfère pas vous les rapporter. Hein.
Tu étais choqué.
Et toi, Sonia, alors, quel rapport tu entretiens avec les traductions premières et est-ce que tu t'en es servi aussi pour te différencier en traduisant le mythe?
Ben, alors non, parce que contrairement à mes camarades, là, je n'ai pas ou très peu découvert Lovecraft en français. J'ai commencé à le lire en anglais, et donc voilà, c'était un choc, c'était quelque chose. Et donc, quand j'ai commencé à le traduire, quand j'ai eu cette chance-là, je me suis dit non, je vais partir de l'anglais et puis je vais le dire selon ce que moi je ressens du texte, essayer d'être le plus, je dirais pas fidèle, mais de restituer le mieux possible les sensations que j'ai eues en le lisant en anglais. Voilà. Et donc, non, je ne peux pas vraiment dire que j'ai été influencée ou quoi par les traductions précédentes.
Et toi, Christophe?
Moi, évidemment, comme mes camarades, j'ai lu, effectivement, moi aussi, j'ai cru que la merveilleuse cité que Randolph Carter recherche dans le pays des rêves s'appelle Kadat. Et le jour où j'ai lu la version anglaise, je me suis dit, mais tiens, c'est pas ça. Mais tiens, le texte est beaucoup plus long, c'est très bizarre. Et puis, voilà, donc je suis assez d'accord avec David pour ne pas en rajouter sur le fouettage des anciens traducteurs et leur accorder des circonstances atténuantes. Ceci dit, c'est tout à fait vrai qu'une mauvaise traduction, voire à la limite une traduction malhonnête, je vais vous donner un exemple, peut entraîner des dérives critiques. Je crois que c'est un tout petit peu après les premières parutions en présence du futur. Il y avait eu une première version du texte que vous connaissez tous, Je suis d'ailleurs, qui était paru dans la grande revue de l'époque Fiction. Alors, je crois que c'était en 55, ça va être un an après. Honte à moi, je ne sais plus qui était le traducteur, mais vous vous souvenez certainement, puisque vous connaissez tous ce texte par cœur, bien entendu, qu'au début, le personnage qui raconte sa triste histoire, et dont on découvrira plus tard qu'il est un monstre, dit qu'il est l'étonné, le déçu, le banni, le brisé. Or, dans cette traduction, qui avait été intitulée très élégamment « Celui d'autre part », le personnage se décrivait comme « le ténébreux, le veuf, l'inconsolé ». Ce qui, vous l'admettrez, si vous vous souvenez un petit peu de votre poésie romantico-décadente, est un petit peu abusif, d'autant plus que la nouvelle était suivie d'un texte critique qui commentait ces trois mots en disant « mais on les reconnaît ». Ah bah oui, tu parles. C'est ce que j'appelle de la malhonnêteté. Voilà, donc effectivement, il y avait des pratiques de traduction à cette époque qu'on n'admettrait peut-être plus tellement aujourd'hui.
Non, mais on pourrait passer une semaine sur ça.
C'est des pratiques de traduction et d'édition,
mais c'est pas jusqu'à 2000, en gros jusqu'à 2000, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une nouvelle génération d'éditeurs prenne le relais dans les grandes maisons. Mais c'est, là, on parle de textes publiés en France, en tout cas dans les années 50-60, mais c'est pas les seuls à avoir souffert de ça. Il y a des textes, si je vous disais qu'Orson Scott Card a été mal traduit dans les années 80, vous allez être probablement un peu surpris. D'autres auteurs, c'est pareil. D'une certaine manière, si, tout, j'ai presque envie de vous dire, tous les textes étrangers, et là je dis pas que l'ASF ou pas que les anglo-saxons que vous avez lus et qui ont été publiés avant les années 2000, alors bonne ou mauvaise nouvelle, mais vous les avez pas lus.
Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, jusque dans les années 80, largement, le calibrage de Fleuve Noir était impitoyable.
C'est pas que le fleuve, hein. J'ai lu, c'est pareil, Folio, c'est pareil, Gallimard, vous oubliez, enfin je veux dire. Gallimard n'est pas exemple de faute, parce que c'est Gallimard, hein, loin de là.
Et puis la SF, la fantasy, étaient quand même des genres mineurs avant l'an 2000, avant que ça devienne un genre respectable, entre guillemets, et ce qui fait que, bon, voilà, il n'y avait pas le même soin éditorial apporté à la
traduction. Je vais vous donner un exemple très, très, très clair. Bon, c'est pas Lovecraft ni rien, mais pour vous dire comment les éditeurs de l'époque pouvaient travailler. Donc, encore une fois, là, c'est Jacques Boimard. Bon, c'était un texte, c'était un bouquin pour la série Ravenloft au Fleuve Noir. Et le texte racontait, la série Dragonlance, ça racontait la genèse, l'enfance d'un grand méchant. Et un méchant qui, dans les jeux de rôle, porte un masque. Et le texte était intitulé « Before the Mask ». Bon, c'était donc avant que le personnage porte un masque, avant le masque, si vous voulez. Et le traducteur, d'ailleurs, c'était pas compliqué, je crois que c'était Jean-Claude Mallet qui traduit aujourd'hui Jordan, Goodkind et autres, prend sa copie, et c'était « Avant le masque ». Et je me souviens très bien de Boimard expliquant: ah oui, mais non, alors le masque, c'est persona, la personne, en Grèce, le théâtre, machin, c'est pas avant le masque, il faut que ce soit devant le masque. C'est devant le masque, before, devant. Et Jean-Claude d'expliquer, et nous d'expliquer, et moi d'expliquer, tous, je veux dire, traducteurs plus ou moins d'expliquer, et le bouquin est sorti intitulé « Devant le masque ». Et cette personne, c'est-à-dire qu'il faut voir une chose qui est assez marrante, c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup de directeurs de collection, d'éditeurs qui relisent et corrigent des traducteurs, ne sont pas traducteurs, et parfois pas anglicistes.
On va maintenant parler de comment vous en êtes venu à traduire Lovecraft. David, puisque tu étais en train de parler, est-ce que l'initiative vient de toi? Est-ce que tu as eu une envie de traduire Lovecraft ou est-ce que,
Non, c'est une rencontre, comme toujours. Je veux dire, les choses les plus incroyables arrivent par les rencontres. J'ai toujours lu Lovecraft, c'est parti de ces auteurs que je relis chaque année, il y en a quelques-uns comme ça, 3, 4, pas plus, 5, bon. Je relis tous les ans, et l'un de mes amis éditeurs le savait, c'était Sébastien Guillot, qui avait monté Folio SF, qui avait monté Interstice et Fantasy chez Calman Levy, tout ça, et qui bossait à l'époque chez Nemos, et connaissant ma passion pour Lovecraft, un jour il me demande, tiens, on a un projet, on voudrait faire le Kadat, tout ça, puis il me dit, retraduire les contrées du rêve, est-ce que tu veux le faire? J'ai cru que j'allais exploser, je me suis mis à trembler de partout, j'étais à deux doigts l'étrangler, ce qui était assez bête quand même, parce qu'il proposait du travail. Mais et le soir même, c'est hallucinant, c'était un samedi, mais je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 2010, et le soir même, j'ai rêvé de la préface que j'allais finir par écrire. C'est hallucinant, ça m'a marqué à un point, vous ne pouvez pas savoir, ça a déclenché un truc, et donc grâce à lui, grâce à Frédéric Vell, Nemos, tout ça, enfin, j'ai repris le texte, et je me suis aperçu d'une chose marrante, c'est que... Moi, je l'ai beaucoup lu en français. J'avais commencé à le lire, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, 13 ans, dans ces eaux-là. Et puis un peu en anglais par la suite, mais surtout en français, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que un auteur que je pensais relativement bien connaître pour l'avoir lu et relu, etc., en fait, je ne le connaissais pas. Donc, que vous dire.
Toi, Sonia, est-ce que c'est Brajlon qui t'a approché pour...
Oui, c'est... je travaillais avec eux depuis 2-3 ans, je ne sais plus. Voilà, ils disent, on va faire Tu lis le mythe, traduction, et on vous confierait 4 nouvelles avec Maxime Baudin. Et là, oui, c'était un rêve, quoi, c'était fantastique. Donc, je me suis plongée dans les textes, et j'ai retrouvé le festival. C'est vraiment une de mes préférées, celle-là.
Oui, très bien.
Après, juste après La couleur tombée du ciel. Ouais, super. La couleur tombée du ciel, c'est vraiment la merveille.
Le festival est magnifique parce
que le festival, c'est une poésie.
Très bien, mais c'est ça, il faut vraiment voir que Lovecraft est un auteur. Moi, ce que ça m'a permis de redécouvrir totalement, ou de découvrir, c'est l'immense talent littéraire de Lovecraft, son incroyable poésie, sa beauté, sa sensibilité. C'est stupéfiant.
C'est la richesse, c'est une prose dense. Et de mon expérience, il faut faire attention à ça parce que. C'est une prose dense, il faut rendre cette densité, mais ne pas qu'elle ne soit pas indigeste pour autant en français. Mais c'est ça sa beauté, c'est cette richesse, cette, cette insistance, ce côté gothique, et donc c'était important pour moi de réussir à restituer cette chose.
Et toi, Christophe,
Moi, contrairement à mes camarades, je ne suis pas traducteur professionnel, donc je m'excuse d'avoir piqué du boulot qui aurait peut-être pu leur rapporter des sous. Mais donc, quand il a fallu, moi j'ai essentiellement deux trucs à raconter, c'est donc Libellus, qui sont des gens que je connaissais un peu, qui font un beau boulot de livres audio, en CD et en MP3, donc dans les domaines de l'imaginaire. Ils ont fait Le Voyageur imprudent de Barjavel, ils ont fait Le Routard galactique de Douglas Adams, ils ont fait je ne sais plus quoi d'autre. Et puis un jour, ils m'annoncent, tiens, on a Les Montagnes hallucinées, tu ne voudrais pas le faire. Et, ou plus exactement, vous ne voudrez pas le faire, parce qu'ils nous ont proposé à mon camarade Thomas Bauduret, qui est mon partenaire chez Malpertuis, puisqu'on a fait ça ensemble. Et donc on a fait une traduction à quatre mains, avec échange de morceaux qu'on s'envoie, qu'on relie, etc. Donc moi étant, lui dans l'histoire, étant plus le traducteur professionnel avec la capacité de traiter un gros volume de texte en peu de temps, et moi étant plus lovecraftien, revenant sur le fait que les textes soient lovecraftiennement corrects, ne pas, pas se tromper par exemple sur telle citation qui ferait un renvoi à autre chose, des choses comme ça. Et puis, l'autre truc sur lequel j'ai bossé, Le Roi en jaune, c'est un projet personnel à l'origine, qui a commencé par apparaître par petits morceaux sur le web, que j'ai publié chez Malpertuis, et puis qui, avec la folie de la série Trop Détective, a été repris par le livre de poche l'an dernier. Et c'est à moitié moi et à moitié eux, on s'est rencontrés, quoi.
Et toi, Patrice, est-ce que tu peux parler de ton expérience de traducteur et qu'est-ce que ça te ferait de traduire du Lovecraft, sachant que maintenant c'est libre de droit, tu peux y aller.
Oui. En fait, moi là-bas, je n'étais pas traducteur, je n'avais pas l'intention de le devenir, et je travaillais uniquement pour le marché anglo-saxon au départ. Donc, je n'étais pas du tout en phase avec le marché français, puisque j'avais dirigé aux États-Unis la première intégrale des nouvelles de Conan Doyle, et puis après de Kull pour un éditeur anglais, d'après manuscrit. Donc j'ai fait tout le travail éditorial, j'étais éditeur au sens américain du terme. Et ça s'est acheté en 2003, et je me suis dit, bon, ça serait quand même bien maintenant d'arriver à faire la même chose, de redonner à Howard la place qui est logiquement la sienne dans l'histoire de la fantasy sur le marché français. Et donc du coup, à l'époque, j'ai demandé à mes correspondants, voilà, il y a qui en France qui pourrait être susceptible de publier Howard comme je veux qu'il soit publié, et tout le monde m'a dit Brajlon. Donc du coup, j'ai passé un coup de fil à Brajlon. Donc, je me rappelle, ce coup de fil était assez épique, parce que quand je suis tombé sur Stéphane Marsan, c'était à l'époque qu'on appelait Brajlon, et on tombait sur Stéphane Marsan au téléphone, c'était il y a longtemps. Et j'ai dit, voilà, ça vous intéresse pour pouvoir publier Conan, parce que je peux vous l'amener. Puis, oui, c'est gentil, vous nous écrivez, du style, cause toujours mon coco, t'es bien marrant, mais bon, bref. Si, je vous assure, je peux vous amener Conan. Bon, mais écoute, hein, vous passez, ou tu passes, et puis si on se tutoyait mardi ou jeudi. Enfin, bref. Donc là, je suis passé avec un gros paquet de photocopies des manuscrits originaux d'Howard pour bien montrer ce que j'avais, plus les bouquins de Wandering Star, qui sont des bouquins hyper luxueux. Et je dis, voilà ce qu'on veut faire. Ah oui, c'est beau, c'est sympa, effectivement, ça nous intéresse. Et là, je commence à leur dire, ben voilà ce que j'ai fait ci, les manuscrits, les machins, l'ordre des nouvelles, le truc. Et alors, pour la traduction, je ne sais absolument pas les traduire, je voulais juste diriger les livres. J'ai dit, voilà, le traducteur, moi, ce que je veux, c'est qui que vous preniez, je m'en fous, je vous laisse faire. Par contre, je veux passer derrière tous les textes, je veux tout vérifier, chaque ligne, chaque machin, et si ça ne va pas, tout ça. Pourquoi tu ne traduis pas toi-même? Ah bon? Allez, et voilà comment je suis devenu traducteur. Et donc ça a commencé par Howard, et puis aujourd'hui je peux commencer à traduire des bouquins, un gros paquet. Et en fait je suis devenu traducteur, on va dire par hasard. Et voilà, bon, je suis angliciste de formation, donc ça, la transition a été, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas facilitée par mon métier de prof, qui m'a grandement aidé à devenir, à mettre rapidement les chaussures du traducteur. Aujourd'hui, c'est une activité que j'aime beaucoup. J'ai jamais traduit Lovecraft, et j'ai eu David m'a fait relire pas mal de ses trades lorsqu'il a travaillé pour Mnemos. Je suis pas sûr que ce soit un auteur qui, moi, serait facile pour moi à traduire, parce qu'il correspond peut-être moins à mon univers et à qui je suis. Et je pense qu'il est important, lorsqu'on traduit quelqu'un, d'avoir un auteur dans lequel on va pouvoir Alors, se projeter ou se retrouver, ou, voilà.
Se perdre aussi.
Oui,
ou se perdre.
Il faut que l'univers parle, qu'on se plonge.
Voilà.
Dans
alors,
le,
je suis un très très gros fan de Lovecraft. Hein. J'adore La couleur tombée du ciel, c'est moi aussi ma nouvelle préférée de Lovecraft. Je trouve ça un chef-d'œuvre absolu. Il y a quelques textes de Lovecraft que j'adorais. Alors, La couleur tombée du ciel, c'est typiquement un texte auquel j'adorais me frotter parce que c'est un vrai challenge, je trouve, d'arriver à traduire cette ambiance
et cette progression, déliquescence.
Voilà.
C'est fascinant.
Que je trouve absolument fascinant, mais après voilà, sur un, je trouve qu'il est très très difficile de traduire Lovecraft aussi très clairement. Alors quand j'ai difficile, c'est pas au sens, je parle pas de qualité de traducteur là, je parle de choses qui sont impossibles ou très complexes à traduire en français. En particulier toutes les affectations stylistiques de Lovecraft qui utilisait volontairement un anglais, c'est pas un anglais américain, mais un anglais anglais britannique du 18e. Et il y a des nuances dans l'orthographe. Il n'écrivait pas show, S-H-O-W, mais S-H-E-W, qui était la façon dont on l'écrivait en Angleterre à cette époque-là. Il y a énormément de petites nuances comme ça qu'il est tout simplement impossible à faire traduire, enfin à faire passer en français. C'est juste pas possible. Il faut trouver des expédients, on contourne, etc. Mais dans la plupart des cas, ça sera perdu. Et moi, c'est quelque chose qui me frustrerait. Donc, je ne me sentirais pas à la hauteur de ce travail-là.
Je voudrais revenir sur un autre truc, là, parce que ça...
J'ai presque terminé, donc après, je te laisserai parler.
Vous vous rendez compte à quel point il est difficile de travailler avec lui.
Hein. Mon auteur préféré à l'heure actuelle, c'est... voilà, c'est super, j'ai son nom qui m'échappe maintenant. C'est un texan. The Road.
McCarthy.
C'est Cormac McCarthy. J'adore le style de McCarthy, mais c'est un...
c'est pas le style
mais c'est un auteur. Blood Meridian. Je ne sais pas si vous avez lu Blood Meridian. Alors, il s'est paru en français. Je n'oserais même pas le lire en français. C'est un livre qui a été écrit par un Texan qui utilise uniquement... je connais très très bien le Texas pour y être allé je ne sais pas combien de fois, à cause de Howard. C'est totalement texan du début jusqu'à la fin et c'est rigoureusement impossible de traduire en français toutes les nuances, les subtilités, les texaneries, si je puis dire, qu'il y a dans le texte original, sauf si on annote le bouquin et que donc on en perd tout le sel. Et voilà. Et Lovecraft, pour moi, c'est un peu cette même chose. C'est que je me sentirais frustré et j'aurais l'impression de ne pas être capable de pouvoir retranscrire les choses telles que je voudrais, telles que je le lis en anglais, tout simplement.
Enfin, ça, c'est vrai à des degrés divers de n'importe quel auteur.
Oui, bien sûr.
Oui, mais à des degrés divers, justement, parce que et Lovecraft, c'est un degré, alors, combien particulier. J'avais estimé, si vous voulez, que pour traduire Lovecraft, ça me demandait à peu près trois fois plus de temps que n'importe quel autre auteur anglais, lambda. Et ce trois fois plus de temps, c'est pas un hasard. Je voyais vraiment comment je progressais. Et j'en avais parlé avec un autre... mais vraiment trois fois plus. Et juste pour dire... j'en ai parlé avec un autre traducteur aussi de Lovecraft, qui est par ailleurs normalien anglais, agrégé anglais, qui est le directeur pour l'anglais de la collection Langue pour tous, et qui s'est aussi frotté à Lovecraft, qui m'a sorti lui-même ce même chiffre, trois fois plus de temps. Le problème, c'est que trois fois plus de temps, ça ne veut pas dire trois fois plus payé. Non mais c'est tout con hein, ce que je vous dis, c'est pas trois fois plus payé, un éditeur il va comprendre la difficulté mais il va pas vous payer trois fois plus. Donc ce que je veux dire, à un moment donné, quand traduire c'est votre métier, votre gagne-pain unique, concrètement, vous faites comment pour le traduire? Ce qui peut expliquer les papiers et autres, je dirais, la difficulté, elle, dans un premier temps, elle est matérielle. On n'est pas payé, et moi j'ai pris, en l'occurrence, mon argent ou celui du couple, à tel point que ma femme m'a dit, si tu retraduis un troisième Lovecraft, on divorce. Mais je crois qu'elle ne plaisantait pas. Et indépendamment de la difficulté matérielle et stylistique, donc j'ai matériel, stylistique, parce que c'est très difficile, effectivement, à traduire. Il y a un autre truc... Ça, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais enfin, moi, ça m'affecte profondément. C'est un auteur qui ne vous laisse pas indemne. Ce que je veux dire par là, c'est que les thèmes qu'il déploie, qu'il développe, la langue qu'il utilise, ça vous affecte. Enfin, moi, ça m'affecte profondément hein, en tant que lecteur et traducteur. Et on est totalement habité et métamorphosé, j'allais dire, par ce texte. Moi, ça me plonge dans des états assez curieux.
C'est vrai, c'est peut-être le seul auteur qui m'ait donné des cauchemars.
Mais moi aussi. Non, oui. Mais j'en ai. Il nous fait faire des rêves hallucinants. Ouais. Donc. J'ai traduit des textes avec Patrice ou d'autres, j'aime bien aussi traduire à quatre mains. Je dirais, on s'amuse, c'est sympa, mais il n'y a pas cette espèce de prégnance. C'est un auteur prégnant, ouais. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais,
bon, pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, au final, il vaut quand même mieux traduire Lovecraft que de ne pas le traduire.
Bien sûr,
même quoi qu'il arrive,
je pense que tout le monde est d'accord.
Voilà. Et donc, oui, malgré tous les défauts qu'ont pu avoir les traducteurs pour des raisons qui leur étaient extérieures ou intérieures, propres à eux, eh ben, quand même, ils ont eu ce grand mérite de faire découvrir tout un univers et qui a sûrement marqué les gens, parce que la puissance de l'œuvre a réussi.
Quoi qu'il arrive, c'est ça qui est génial, c'est que même mal traduit, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui passe. C'est une expérience unique. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. Hein.
Alors, ouais, parce que vous parlez de la modernité, de la poésie de Lovecraft, et justement, comment elle exprimait, Patrice l'a évoqué un petit peu, par du lexique particulier, par des thèmes particuliers, comme tu disais, David. Qu'est-ce qu'on peut parler de ça, peut-être, Christophe ?
Bah, la modernité, on discutait... il n'y a pas très longtemps ensemble, des montagnes hallucinées. La problématique de la modernité, elle s'exprime assez bizarrement dans ce texte, par une cohabitation entre ces différents archaïsmes de langage qu'on retrouve à différents endroits dans le texte, et puis cette affectation de modernité dans l'énumération des machines, des modèles d'avions qui étaient à l'époque dernier cri, etc. Tout un détail technologique, et puis aussi bon, l'aventure antarctique, c'était à l'époque quelque chose qui faisait partie de l'actualité. Donc la modernité, en fait, chez Lovecraft, elle est jamais pure. La problématique du temps, hein, comme il disait, le combat contre le temps, c'est le meilleur sujet pour un écrivain. Il y a toujours cette cohabitation entre une modernité ou une affectation de modernité et puis un petit clin d'œil vers un passé qui peut être le 18e siècle anglais ou qui peut remonter à un certain nombre de millions d'années en plus.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a ce déchirement de Lovecraft du côté de la modernité quand il décrit les cylindres complètement fous, là où on met un cerveau et les machines grâce auxquelles ce cerveau peut parler, voir, etc. Et cet attachement au passé, au XVIIIe siècle, et cette crainte devant ce que la science va faire découvrir. Et moi, il y a une chose qui me fait un peu délirer, c'est j'essaye de m'imaginer ce que pourrait penser Lovecraft des dernières découvertes sur la matière noire. La matière noire qui occuperait avec l'énergie sombre 90% de l'univers, et qui donc fait que nous, la matière que nous connaissons, serait un résidu de tout un monde complètement inconnu. Et ça, donc, c'est de ce point de vue-là, Lovecraft, en présentant la Terre et l'humanité comme une infime gouttelette dans un ensemble, dans un cosmos innommable, il a quelque chose qui rejoint les découvertes actuelles.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sonia. On sent le déchirement Lovecraftien entre un rêve d'une permanence des choses fixée à l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui est avec Lovecraft, avec sa perruque, avec ses affectations de vocabulaire stylistique, ses amis, son refus du mercantilisme, et à côté cette fascination pour les éons qu'on retrouve dans les dernières nouvelles, dans les montagnes hallucinées, etc. Cette fascination sur la théorie de Wegener qui était juste sortie, enfin qui sortait à l'époque et qui commençait à l'intéresser. Donc il y avait ce déchirement véritablement entre voilà ce que j'écris, et l'écrit sur des gouffres de temps qui sont absolument colossaux, et ce que j'aimerais être, ce repli sur soi, sur une époque qui a disparu. Je trouve que l'épisode new-yorkais de la vie de Lovecraft est juste assez révélateur de la chose. C'est voilà, il habite dans Providence, qui est donc une ville qui reste très, enfin qui était et qui reste encore aujourd'hui assez une ville très très perdue dans son, ou en tout cas nichée dans son passé, qui vit, qui est assoupie dans son époque 18e siècle. Là, il arrive à New York, il voit les gratte-ciels, il voit les hordes d'étrangers, donc il est complètement perdu. Il repart très vite en 2 ans, il repart en courant à Providence, et là, ouf, il est chez lui dans sa petite maison avec ses tantes, et il est heureux dans cet univers-là. Donc oui, c'est ça qui contribue grandement, je pense, à son talent d'écrivain, c'est justement cette faille de déchirure. Un homme heureux n'est pas forcément un grand écrivain, dirais-je.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre nouvelle préférée de
Lovecraft ? Je crois que Sonia et moi, on l'a déjà dit, je pense.
Sans conteste, vraiment.
Oui, de loin.
Parce qu'elle est, peut-être justement parce qu'elle est en dehors de l'univers. Il n'est pas en train de fouiller son Cthulhu, ses êtres innommable et tout, mais c'est une histoire toute bête qui pourrait arriver.
Ouais, il n'y a même pas d'histoire, ça, voilà, c'est un constat, c'est clinique, c'est froid.
C'est détaché, et en même temps, il y a une force, c'est aussi une poésie, parce que c'est intangible, Et donc, oui, c'est vraiment super.
Bon, il y a cette futilité des actions humaines qui. Il y a un côté, enfin, très mot passant, je trouve, cette nouvelle.
Oui,
on fait
oui,
ce qu'on veut, mais
vrai.
On n'échappe pas à ce qui se passe à
oui,
côté.
La résignation voilà. des fermiers, c'est frappant. Ils sont là, ils se font empoisonner, ils le savent, ils font rien.
Puis ils font rien.
C'est extraordinaire.
Il n'y a absolument pas ce côté mélodramatique qu'on va trouver dans la production Pulp à l'époque. Il y a toujours le gentil qui arrive à la fin et qui avait gagné, etc. Et c'est, il part d'un constat et puis il l'amène jusqu'au bout. Et puis voilà. Mm-mm. Je trouve ça assez.
Ouf. Pas de morale.
Aucune morale, il n'y a pas de manichéisme. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est étonnant de voir des textes pareils paraître dans les pulps américains de l'époque, puisque le lecteur américain est quand même très, très pétri de puritanisme, des bons et des méchants, de Dieu, etc. Et là, on a un auteur qui est athée, qui nous impose une conception mécaniste du cosmos, dans lequel, ben, voilà, les gars, vous ne servez à rien, vous êtes là, vous allez crever, et vous n'y pourrez rien. Au revoir. Waouh.
Ça, c'est de la modernité.
Oui.
C'est du
Beckett
avant l'heure.
C'est du Beckett. Mais il y a quelques-uns, hein, les grands auteurs de l'époque des pulps américains, moi je pense à Ward évidemment, puisque c'est mon auteur, on a ce côté-là, on a ce côté nihiliste. Les nouvelles de Conan, c'est ben voilà, l'univers commence avec, ben, il y a un cataclysme, tout le monde meurt, et puis là, poum, arrive la Givorien, il y a Conan, etc., ils font plein de choses, etc., puis à la fin, ben, il y a un cataclysme et tout le monde crève. Au revoir. Ouais. C'est juste une nouvelle très sombre, hein, la fin des clous rouges, tout le monde crève. C'est la fin du monde, les gars, ben, regardez, poum, et puis. Les gentils à la fin, ils n'arrivent pas.
Ils sont totalement contemporains de Kafka. Hein. Je veux dire, 25, 26, c'est Kafka. Vous regardez le château, l'Amérique, choses comme ça, 26, 27.
Et cette conception-là de l'écriture, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui, je trouve, dans la littérature populaire, ce que fait George Martin à l'heure actuelle avec Game of Thrones, ce côté, regardez, à la fin, je ne vais pas spoiler sur la première saison ou dans le premier bouquin, mais je vais quand même le faire, c'est voilà, le fait qu'à la fin, bah, regardez, ah, il est gentil, il est beau, le héros, il va arriver, il va sauver l'animal. Non, il meurt, paf. Et tout le monde fait, ah bah oui, c'est génial. Enfin, alors, en fait, ça fait 60, 70 ans, 80 ans que c'est les auteurs dont on parle aujourd'hui, enfin, Lovecraft en particulier, le faisait déjà à cette époque-là. Et la littérature populaire, ou en tout cas le divertissement de masse, commence tout juste à accepter, à intégrer ce genre de choses-là, alors que ben, ces auteurs-là, qui étaient novateurs, qui étaient. Enfin, c'est pas un hasard s'ils sont lus 80 ans après. Hein.
Comme quoi, ça sert à quelque chose d'être novateur, parce que l'idée finit par arriver. À se répandre.
David, ta nouvelle favorite?
C'est difficile d'en choisir une. Moi, j'en ai pas eu.
Il n'a pas lu Lovecraft, en fait.
si je devais redire, ayant traduit de recueil, je dirais que dans celui-ci, Les Montagnes Hallucinées, Les Récits d'Exploration, je suis très, très frappé par Les Montagnes Hallucinées, que je ne sépare pas dans l'abîme du temps, pour des raisons aussi. Bah, je trouve les textes extraordinaires dans leur progression, dans leur longueur, etc., et dans ce qu'ils nous disent aussi de l'évolution de Lovecraft par rapport aux autres. Enfin, je ne vais pas rentrer en détail. Et dans Les Contrées du rêve, j'adore évidemment La Recherche de Kadad, que je trouve d'une poésie stupéfiante, avec la fin qui est juste hallucinante, cette chevauchée de Carter à travers l'espace, c'est magnifique, la rencontre avec Arnold Totep, ou quand on découvre ce qu'est vraiment la merveilleuse cité du soleil couchant, enfin, moi j'en pleure à chaque fois. Hein. Et un texte beaucoup plus court qui le suit, qui est La Clé d'Argent, qui doit faire quoi, une trentaine de pages, je crois, beaucoup plus intime, qui est une sorte de retour à l'enfance. En anglais, c'est extraordinairement bien fait. Alors c'est vrai que c'est totalement foiré dans l'autre, là. Elle n'a rien compris. C'est très simple, c'est un texte très simple et sublime. Bon, moi, je suis désolé, j'en donne 4. Mais...
C'est pas grave. Et toi, Christophe ?
Alors moi, je vais être très méchant, je vais refuser de répondre. Il y a quelques nouvelles dans le corpus de Lovecraft qui me paraissent un peu inférieures, mais sinon, tout le reste peut, pour moi, se qualifier comme mes nouvelles préférées. Et comme je ne suis pas du genre à découper tout ça en paquets, comme on le fait habituellement, et pour moi, tout ça, c'est un corpus unique, je trouve que dans chaque nouvelle, il y a des choses... Bon, évidemment, c'est vrai que les fameux grands récits d'exploration dont parle David, voilà, ils ont... tout un tas de qualités qu'on peut leur trouver, en particulier le fait que Lovecraft vous prend par la main et vous entraîne dans des dédales perdus au milieu des sables, au milieu des glaces, selon le cas, à la découverte de civilisations anciennes qui malheureusement sont effondrées, et là c'est un grand drame.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe, c'est-à-dire qu'on lit vraiment un auteur, de façon générale, ça n'a pas de sens quand on adore un auteur de vouloir retenir absolument un seul texte, c'est-à-dire que la personne n'a nommé L'Appel d'Cthulhu, mais L'Appel d'Cthulhu est quand même un texte qui est une construction... génial.
Et si
vous prenez un texte vraiment très mineur, qui pour moi est l'un des peut-être moins bons de Lovecraft, Prisonnier des Pharaons, ou moins Lovecraftien des textes de Lovecraft, ce que vous voulez, et même dans ce texte-ci, je dirais par contraste, on découvre quand même beaucoup, ça nous renseigne énormément sur la prose Lovecraftienne, Enfin, je veux dire, même lui, je le garde quand même. Quoi.
Tout le monde a parlé du style de Lovecraft, alors sur lequel je vais faire une toute petite parenthèse. Moi, j'ai beaucoup compris de choses sur le style de Lovecraft ou du premier Lovecraft quand j'ai lu Lovecraft en VO parallèlement à Poe en VO, ce que j'avais jamais fait avant, parce que tout le monde connaît les traductions de Poe par Baudelaire principalement. C'est quand même marrant que des choses aussi anciennes continuent à être la version bien connue. Mais quand on lit Poe en VO, on se rend compte à quel point Lovecraft a été influencé par cette prose complètement délirante, polysyllabique et excessive. Mais en fait, oui, l'aspect construction des textes est super important chez Lovecraft, et c'est un truc sur lequel lui-même était consciemment préoccupé et travaillait énormément, avec en particulier sa fameuse injonction de commencer d'abord par envisager le déroulement de la nouvelle dans l'ordre où se passent les événements, et ensuite de tout chambouler et de préparer l'ordre de narration qui, en général, pour avoir une nouvelle bien faite, doit être différent. Mmh.
C'est le cas dans L'Appel de Cthulhu.
Ce qui produit quand même parfois des fins un peu, je vais pas dire ratées, mais chez Lovecraft, lorsque le type écrit son journal, qui fait « Mon Dieu, mais je vois une créature velue à la fenêtre », j'écris « Mais oh, il ouvre la fenêtre, une créature velue, non, ah !»
Il était très jeune.
Bon, en l'occurrence, ça, c'est Dagon. Effectivement.
Si moi, je vois une créature velue qui passe par la fenêtre...
Non, mais il y a une certaine grandeur, il n'était pas si jeune que ça, il avait 33 ans. Non, d'ailleurs, 1919, il en avait 29, ça a été publié quand il en avait 33. Mais pour vous donner un autre truc, c'est que Lovecraft, quand on le traduit, c'est vraiment difficile, chaque mot, il y a vraiment un côté
chaque
escalade. Mais chaque mot, et alors, à chaque fois j'avais cette espèce de, comment dire, d'espoir, je me disais, ce sera plus facile après. Ça n'a jamais été plus facile après, c'est terrifiant. Et j'ai beau avoir cette menace de divorce sur moi, je continue à réfléchir, à préparer la traduction de la suite, il faut pas le dire à ma femme. Mais, et donc je regarde, je rêve, je prends les textes, je me dis, ah mais quand même, je devrais mieux m'en sortir, je prends les textes en anglais. Je me dis, mais quel enfer, pourtant je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Mais je voudrais, enfin, je sais pas, il y a un moment donné, pour dire, traduire Lovecraft, je pense qu'il faut toujours, c'est pareil, se plonger dans le texte. Alors moi, j'ai malheureusement un horrible accent anglais, j'aurais bien aimé vous...
Non, mais justement, on aime bien.
Non. Bah, je peux vous donner un truc.
Oui, vas-y.
Mais je voudrais pas le lire, parce que si je le lis, personne ne va comprendre. Mais il y a une phrase, c'est juste, bon, il y a des choses qui sont difficiles à traduire, et voilà, mais quand on arrive, je veux dire, pour moi, je voudrais vous donner un seul exemple, qui est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il est, pour moi, tout à fait représentatif de ce vers quoi Lovecraft tend et essaye malgré tout de nous emmener, c'est la beauté. C'est la beauté et la poésie, parce que quand on dit il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'issue, alors c'est vrai que c'est quand même le cas dans La couleur tombée du ciel, mais il y a des textes, justement, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Les montagnes hallucinées, c'est pour ça que j'aime beaucoup les textes des contrées du rêve, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dans l'abîme du temps. L'issue, ça peut être la poésie et ça peut être aussi le lien qu'on a à l'autre. Alors, je sais que ça peut paraître extrêmement bizarre quand on parle comme ça de Lovecraft, mais
le lien à l'autre.
De certains liens qu'on a à l'autre. Et, je veux dire, Lovecraft, il n'est pas exempt de beauté, même d'humour. Il y a de l'humour aussi chez Lovecraft quand on regarde les personnages des ghouls, par exemple, dans Kadat. Ils sont marrants, ces ghouls, elles sont sympathiques. Elles sont vraiment cocasses, elles ont un côté cocasse.
C'est vrai.
Je suis pas sûr qu'on fasse un recueil quand même sur les histoires les plus drôles de Lovecraft.
C'est ça,
le volume serait assez fin.
Non, mais il a essayé.
Non, mais regarde ça.
Il est plus marrant dans ses lettres quand il écrit à ses potes, il fait des blagues que dans ses lettres.
Toi qui aimes bien ça. C'est juste cette phrase-là que je trouve très belle. C'est une de mes phrases. Alors, à la limite, c'est une de mes phrases préférées.
Quand on est joli. Meuble.
Après, on va peut-être passer aux questions.
Il y avait même une chose que je voulais rajouter, j'en ai parlé hier sur une précédente conf, c'était aussi l'importance que les traducteurs soient familiers du genre. Hier, je donne un exemple, je vais vous redonner, parce qu'il est assez sympathique. C'était sur les traductions de la première nouvelle de Conan, dans laquelle on voit Conan qui arrive dans un... passage souterrain, il arrive dans une crypte et puis il voit sur des murs comme ça, il voit des bas-reliefs avec des représentations des Old Ones, O majuscule, donc les grands anciens dans la tradition française. Et le traducteur précédent, les Old Ones, c'est qui ceux-là? Et donc du coup, dans la VF, ça donnait des représentations des statues, des bas-reliefs de ces vénérables aïeux. Comment perdre un truc quand on ne connaît pas l'univers? Voilà, enfin, c'était juste. Si vous avez des questions.
Enfin bon, ça, à la limite, l'éditeur le lit, lui, il connaît, il remplacera.
Mais non, puisque c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a eu dans la version de la VF.
Hein.
Après, c'est une question de pratique éditoriale, et aujourd'hui, les correcteurs et lecteurs ont plus tendance à être...
Bah c'est quand, par exemple, Brage, par exemple, si on parle de Brage, ils sont habitués, enfin, ils bouffent de la fantasy à longueur de temps, donc effectivement, ils sont habitués au code.
Oui, ils laissent pas passer les vénérables aïeux.
Non, c'est, voilà, ils ont... et je pense qu'aujourd'hui, enfin, ça dépend des éditeurs, mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui demandent à côté. Moi, je fournis toujours un glossaire, des lieux, etc., parce que, voilà, parce que vu que c'est pas des trucs... ça se passe pas en Italie ou en Suisse, ça se passe à Cadat ou je sais pas où, bon, automatiquement, on inscrit, voilà, ça c'est ici, c'est un tel personnage, etc. C'est quand même, on va dire, la pratique, la traduction de genre aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus professionnelle qu'il y a 30 ans, où c'était, waouh, ça a l'air chouette, on traduit, et puis voilà. Et ils faisaient pas gaffe aux sources, les versions qu'on a sont des versions pub, j'allais pas chercher les versions originales, donc oui, il y avait plein de problèmes. Voilà, en deuxième génération, c'est vrai que le boulot, quand même, pour nous, il est quand même super facile. Hein.
Mais moi, je m'interroge toujours sur ce que feront nos successeurs. Hein, parce que
ils nous enterreront. Ils vont nous enterrer et ils vont dire du mal de nous de façon à vendre leur bouquin.
Non, je ne pensais pas tellement à ça. Même si, ok, mais je pensais surtout à ces textes extraordinaires, ces traductions fabuleuses qui vont arriver dans 25 ans et que je ne pourrais peut-être pas lire.
Mais c'est normal, une traduction vieillit par définition.
Oui, non, mais j'ai pas de problème avec
ça. Il y a plein d'exemples. Quand dans les nouvelles, il y a un personnage qui attaque un autre et qui le traite de bastard. Donc en français, ça va faire bâtard ou salopard. Salopard, il y a 50 ans, c'était pas possible. Bâtard, ça pouvait passer. Parce que bâtard, il y a 30 ans, c'était bah ouais, t'es un bâtard, c'est une insulte. Aujourd'hui, il dit bâtard, c'est bâtard. Ça va plus. C'est connoté. Ouais. Comme il y a une nouvelle de Conan qui s'appelle Au-delà de la rivière noire. Le titre exact, logiquement, c'est Beyond the Black River en anglais. Et en anglais, river, c'est un fleuve ou une rivière. Ça dépend, il faut que ça se jette. Enfin bref, c'est une classique entre un fleuve et une rivière. Mais si on lit la nouvelle, techniquement, c'est plutôt un fleuve, parce qu'à côté, il n'y a que des fleuves. Donc, ça aurait fait au-delà du fleuve noir. Et au-delà du fleuve noir, je ne pouvais pas. Mais y a un autre pourtant, c'est la bonne trad. Mais c'est tellement. Fleuve noir en français, c'est tellement connoté par définition que. Hop, on passe.
Patrice Duvic disait qu'il fallait refaire les traductions tous les 20-25 ans. Il m'a donné un exemple tout bête. C'était dans un texte, je ne sais plus lequel, un polar, où le personnage. Donc, c'est début des années 70. Et le personnage mange un sandwich à la viande. Attendez, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sandwich à la viande? C'est un hamburger.
C'est un hamburger.
Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le sandwich à la viande, on ne traduit plus, c'est un hamburger.
Et à la limite, moi, ça me fait plaisir de me dire ça, que ces traductions que nous avons faites sont transitoires et que, voilà, elles seront remplacées, le progrès, tout ça, moi, ça me plaît.
Les premières trades de Hamet ou de Chandler, dans lesquelles c'était, elle rentra dans le café et commanda un petit jaune, moi. Ben non, vieux, ça ne va pas. C'était juste à San Francisco en 1924, quoi. T'es pas à Paris en 52. Et c'est... Ouais. Voilà. Des questions, je pense. Il y a plein de questions.
On va commencer par monsieur et puis après on...
Oui, juste pour savoir, parce que en fait, je pense que c'est peut-être pas les plus anciennes pour les traducteurs, mais avant il y avait beaucoup de notes en fin de page, ou pire en fin de chapitre, ou encore pire en fin de livre. Et maintenant, actuellement, je trouve qu'il y a moins ça, et ça je trouve que c'est un problème, parce que en fait ça hache la lecture, et on se dit soit on veut avoir la note et après ça hache la lecture, soit on passe mais on manque quelque chose.
On essaye de... Bah, d'abord, chez Lovecraft, ce n'est pas forcément tout à fait le cas. C'est vrai d'une manière générale, dans la fiction, on évite de faire sortir le lecteur du texte. Soit on s'arrange pour essayer de donner de la manière la plus subtile possible le sens, s'il faut le donner, hein, ce n'est pas toujours le cas, au sein même du texte, soit on... Mais dans une fiction où il vaut mieux éviter d'avoir les notes quand même en bas de
page. Il y a quand même aussi le fait qu'aujourd'hui le lectorat français est quand même plus au fait des mœurs anglo-saxonnes que il y a
l'effet hamburger.
Moi
je me rappelle dans la grande anthologie de la science-fiction, ils mettaient une note pour expliquer ce que c'était qu'Halloween. Voilà. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était peut-être nécessaire.
Une trad de Masterton dans lequel il y avait. Le héros s'appelait Jane Doe, machin comme ça. Et heureusement que tu n'appelles pas Jane, parce que et il n'y avait pas d'explication. Là, il en fallait une, évidemment. Jane, c'est son nom qu'on donne aux États-Unis, si vous ne le savez pas. Lorsqu'on a un cadavre non identifié, si c'est un homme, c'est John, si c'est une femme, c'est Jane. Et donc là, le héros s'appelait John, il n'était pas traduit. Et là, c'est typiquement le genre d'exemple où il faut une note, parce que c'est. Enfin, ou alors on fait
peut-être
une traduction.
Peut-être plus maintenant, parce qu'avec toutes les séries.
Avec les séries, voilà, avec NCIS et machin comme ça.
Ça peut peut-être s'amener aussi.
Alors, ou bien par le
contexte. Ou alors on amène, si on doit rajouter 10 lignes pour expliquer un truc, c'est.
Non, mais c'est la blague que tu comprends pas et je t'explique ensuite pourquoi c'est.
Voilà, la fameuse blague de Pulp Fiction, que je trouve qui a été dans la VF, aussi, je déteste les VF pour les films. La fameuse blague qui attend un quart d'heure pour qu'elle. Comment ça s'appelle? Uma Thurman doit raconter avec. C'est la famille Ketchup en anglais. Et donc il y a le papa qui est, il y a la famille tomate et il y a la petite tomate qui est derrière et puis le père lui dit ketchup Et donc il veut dire, enfin, reviens vers nous, remonte et catch up, catch up, etc. Et en VF, ils avaient traduit ça par la famille Citron, dépêche-toi, on est pressé, que je trouve une excellente trad.
C'est pas mal. Et après, ça pose pas des problèmes.
Et je trouve ça merveilleux, c'est le même truc. Mais ça, c'est l'exemple rêvé où on arrive. Voilà, avec David, on a fait une trad à quatre mains dans laquelle le héros s'appelait en anglais S.
Je me souviens plus.
Short.
Il s'appelait S.
Horton. Et en fait, c'est un gamin, c'est un petit minus, c'est un petit bidule. Et donc, il fallait lui trouver un nom. Et donc, du coup, on a trouvé...
Lutin.
Lucas Hutin. Lutin. Alors, bah, et voilà, mais à chaque fois...
Comme ça, c'est-à-dire que souvent, on procède par équivalence. C'est-à-dire, si on ne peut pas rendre la chose telle qu'elle, on essaie de rendre un équivalent.
Il y a une part de bricolage malgré tout. Hein. On a beau être fonduciste, il y a un moment, on devient aussi bricoleur.
Traducteur, là, ce que je disais, c'est qu'on a, alors on a des semelles, on a des ballerines pour être un peu souple, on a des gros souliers pour avancer malgré tout, mais il faut une boîte à outils. On passe notre temps à rafistoler.
Voilà. Là, j'ai fait une trad. Je ne sais pas comment est-ce que l'éditeur va régler le problème. Je lui dis voilà, c'est cadeau. Débrouillez-vous. Donc l'héroïne s'appelle Claire Fontaine. Et donc soit on change le nom. Soit on change pas, mais en français, Claire Fontaine, ça passe juste pas, quoi. Ok, là, j'ai dit, ben voilà, hein, cadeau.
Alors, dans l'édition que j'ai fait du Roi en jaune de Robert Chambers pour Malpertuis, il y a plein de notes, non pas de bas de page, non pas de fin de livre, mais de fin de nouvelles, puisque c'est un recueil de nouvelles. Ça m'a paru nécessaire parce que c'est des choses qui ont été écrites en 1895 et où il y a plein d'allusions à des choses de l'époque. Qui ont pu avoir été un petit peu oubliés, que ce soit à New York, à Paris, puisqu'il y a des histoires qui se passent dans les deux villes. Et donc là, il m'a semblé intéressant de mettre des rappels sur l'histoire du siège de Paris, par exemple, des choses comme ça.
Mais des fois, le décalage, c'est important. Il y avait dans Catchbird, le roman tourne autour de l'idée des oiseaux en cage, tout ça, mais ça se passe dans la piraterie interstellaire. Et il y a un personnage qui s'appelle Finch, qui veut dire petit zozio. Bon, et ben j'ai traduit parce que là c'était vraiment une nuance importante à donner. J'ai traduit par pinson. J'ai changé de nom. Voilà.
Ah ben c'est la fameuse problématique, la traduction des noms dans Harry Potter. Fallait-il pas?
Ben je la trouve plutôt. Moi je trouvais que ça plutôt bien foutu.
Seigneur des Anneaux, ouais. Game of Thrones, ouais. Je veux dire c'est.
Partout il y a des mots qui veulent dire quelque chose.
Voilà, quand ça apporte quelque chose à l'impression que rend le texte, je pense qu'il faut faire ça.
Oui, évidemment c'est au volume 4 qu'il y a un changement, il y a un truc important par rapport au nom VO et que le nom qu'on a choisi en VF ne va plus et là on fait. Ah,
on met une note de pas de page.
C'est ça.
On avait une deuxième question là-bas.
Oui, donc vous avez dit que ça met trois fois plus de temps à traduire du Lovecraft. Alors, est-ce que c'est possible de traduire un livre en projet personnel sur le côté pendant qu'on traduit autre chose pour vraiment gagner du...
Lovecraft, bah, ça, j'ai envie de vous dire, c'est la réponse bateau, ça dépend. Ça dépend du livre, ça dépend de ce que vous faites à côté. Voilà. Lovecraft, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour mes camarades, mais... Moi, je n'arrive pas. Soit je traduis Lovecraft et c'est tout, soit pas. C'est trop. Enfin, en ce qui me concerne, c'est trop particulier, ça m'affecte trop, je ne peux rien faire d'autre. Voilà, je parle que pour lui et que pour moi.
Moi, j'ai du mal en général à traduire plusieurs choses à la fois parce que, en gros, c'est chaque fois une immersion dans un univers différent. Mais c'est d'autant plus vrai pour Lovecraft.
Pardon, c'est comme si vous écoutiez en même temps deux musiques différentes. Vous voyez, c'est assez bizarre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est curieux quand même.
Ok, c'est
vrai.
Si
vous n'avez pas traduit la phrase dont vous parliez tout à l'heure, c'est possible d'en parler.
C'est pour vous donner un exemple, oui, de difficultés qui mènent vers la beauté. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait que je la lise en anglais. Si je l'ai en anglais, personne ne la
comprend. Allez.
Tu veux
Non, vas-y, si tu veux.
Malheureusement, j'ai un mauvais accent.
Alors, avec un accent texan.
Alors, il s'agit.
Un accent texan, ils veulent pas.
C'est nous, l'accent texan.
Frappant texan. C'est où ça? C'est Evenor?
C'est à partir de. Il faut expliquer peut-être le contexte. Carter cherche cette fameuse cité, merveilleuse cité du soleil couchant, et il va essayer de plaider sa cause auprès des dieux, et il trouve Nanatotep, qui est en quelque sorte le porte-parole des dieux, et qui lui explique ce que c'est que cette merveilleuse cité du soleil couchant. Et je vous le dis, cette merveilleuse cité du soleil couchant, ce n'est jamais que l'agrégat de tous les souvenirs qu'il a eu quand il était petit, dans le landau promené par ses nounous, et il voyait comme ça les reflets. C'est des souvenirs, c'est une cité qui n'existe pas, elle n'est faite que de souvenirs, et des souvenirs des moments heureux de son enfance. Et donc Nyarlathotep lui explique, il y a plusieurs pages qui sont magnifiques sur tout ce que c'est que cette cité. Et à un moment donné où il parle aussi des étoiles qui brille sur cette cité, et c'est la phrase là.
Even now they are shining above the scenes they have known and cherished, drinking of their charm that they may shine more lovely over the gardens of dream.
Bon, alors, c'est pas évident, je vais vous la lire en français. Je veux dire avec un accent français, là, peut-être que. Even now, alors c'est les étoiles. Hein. Even now, they are shining above the scenes you have known and cherished, drinking of their charm, that they may shine more lovely over the garden of dreams. Ah ouais. Si vous voulez, on peut, enfin, je peux, si vous voulez voir, je peux faire suivre le truc, mais c'est vraiment, ça, c'est typique de Lovecraft. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est typique de Lovecraft où effectivement, il y a un côté alambiqué. Et il faut le rendre tel quel, parce que je veux dire, si on commence à le découper, à le déplier totalement, on le perd. Et il faut être, enfin, je pense y être collé au plus près de l'anglais malgré tout. Moi, je l'avais traduit comme ça, moi. Donc, je prends le début, hein, voilà. Enfin, regarde, derrière cette fenêtre brillent les étoiles de la nuit éternelle. En ce moment même, elles baignent de leur lumière les paysages que tu as connus et chéris, s'enivrant de leur charme afin de briller plus belle que jamais sur les jardins du rêve. Et tout le texte, enfin. Tout est, moi je trouve ça mais sublime. On parlait hier de Lovecraft, poète. On disait qu'il avait écrit pendant cette année des poèmes avant de vraiment de se consacrer à la prose. Mais sa prose, elle est totalement poétique. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut penser à Lovecraft, l'écrivain d'histoires d'horreur et autres. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas meilleur moyen pour passer à côté de Lovecraft que de le limiter à ça.
On parlait de la beauté tout à l'heure.
Oui.
C'est ça en fait.
Oui. Ben, c'est très frappant dans là c'est le texte, c'est Kadat, c'est très frappant dans la clé d'argent, et c'est très frappant aussi dans les montagnes hallucinées. Il y a une chose, quand je travaillais sur les montagnes hallucinées, je ne sais pas si vous avez ce texte un peu en mémoire, donc ça se passe en Antarctique, expédition, machin, tout ça. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un type qui va écrire un texte, je crois qu'en anglais, de mémoire, hein, c'est 300 000 signes, je crois, 250 000 signes, c'est-à-dire c'est quand même un court roman, et il va écrire tout ce texte pour expliquer pourquoi il ne faut surtout pas y aller. Hein. Mais alors vous lisez le truc, puis évidemment à la fin, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'y retourner.
Absolument.
Et d'ailleurs, le texte est très 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 bizarre, parce qu'en anglais, il commence de la manière suivante. Bon, c'est pas grave, je cite de mémoire, c'est « I am forced into speech », donc je suis obligé de prendre la parole en quelque sorte, « because men of science », parce que des hommes de science, scientifiques, « have refused to listen, to follow my advice without knowing why ».
Oh, tu m'en avais parlé un jour, ouais, je me rappelle de ça.
Et alors, bon, je suis obligé de prendre la parole. Je vous la traduis telle que ça a été traduit avant par mes confrères. Et puis après, vous pourrez dire si vous êtes d'accord avec ma version. Mais c'est très simple. Ça a l'air très, très simple. C'est-à-dire que même chez Lovecraft, si à un moment donné, vous tombez sur une phrase et vous dites « Ouf !» Facile. C'est la méfiance, là, encore plus. Donc, « I am forced into speech because men of science have refused to follow my advice, virgule, without knowing why. » C'est juste l'enfer, cette phrase. C'est la première. C'est pas... Ça a été traduit avant par... je suis obligé de prendre la parole parce que les hommes de science ont refusé d'écouter, de suivre mes conseils, d'écouter mes conseils, sans savoir pourquoi. Mais sans savoir pourquoi, si vous lisez ce que vous lisez, il y a des hommes de science, ils tournent la roue comme ça, ils disent « Ah non, alors, là, non tiens, on ne sait pas pourquoi, non, on refuse d'écouter ». C'est pas ça qu'il dit Lovecraft, « without knowing why ». C'est pour ça qu'après, il y a 200 pages d'explications, c'est qu'ils veulent qu'on leur explique, « they want to know why ». Donc, sans qu'on leur explique, si vous voulez. Ben oui, sans qu'on leur explique, sans que ça leur soit expliqué. Et c'est pour ça qu'après, on a « this is why », machin, tout ça, et qu'on rentre dans le texte. Et par rapport à, justement, je disais, donc, en traduisant ce texte, en retraduisant les montagnes hallucinées, ce dont je me suis aperçu, si vous voulez, ce que je me suis dit, c'est que les montagnes mêmes étaient à l'image, enfin, la description des montagnes est à l'image de ce qu'est pour moi le style de Lovecraft. C'est-à-dire, c'est immense. Ça paraît infranchissable, c'est surmonté d'édifices, d'édicules assez bizarroïdes, c'est juste l'horreur à franchir, on est ballotté de partout, on a l'impression qu'on va s'écraser sur les montagnes, mais quand on arrive à franchir le truc, c'est la beauté, c'est merveilleux. Et ce qu'il faut bien voir dans les montagnes hallucinées, c'est que c'est très intéressant parce qu'il y a comme un effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on parle, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent, c'est à l'Antarctique, mais il y a une équipe qui y va, plusieurs bateaux, ils débarquent. De l'équipage des bateaux, il y a une partie seulement qui va au pied des montagnes. Et une fois au pied des montagnes, ils s'arrêtent devant l'horreur. C'est les cadavres dépecés, etc. Ils s'arrêtent devant l'horreur. Seules deux personnes parviennent à franchir les montagnes. Et seules deux personnes, l'élite, j'allais dire, ça c'est très important aussi pour Lovecraft. Lovecraft, contrairement à ce que vous pensez, il n'a pas envie de vous glisser. Et une bonne partie de ses efforts dans les livres, mais depuis le début, quasiment depuis Dagon, c'est comment faire pour ne pas être lu. Ou en tout cas, comment faire pour n'être lu que des lecteurs que j'estime dignes de moi. C'est-à-dire que, évidemment, il ne peut pas contrôler qui va lire ses textes. Mais quand même en partie, si, parce qu'il met, j'ai envie de dire, il met des fausses pistes, des pièges, alors l'horreur, le machin, tout ça. si vous vous arrêtez là, j'ai envie de vous dire, bah, tant mieux, enfin tant mieux ou tant pis, d'une certaine manière, mais si vous parvenez à franchir la barrière de l'horreur, vous découvrez ce que les protagonistes de des Montagnes Hallucinées découvrent, c'est-à-dire la beauté.
C'est beau.
C'est beau,
c'est beau, hein, on va s'arrêter là-dessus. Hein, à moins qu'il y ait des questions. Mais... ah, il y a une question encore.
Ça sera la dernière.
Non, alors c'est une question très intéressante, effectivement. Ouais. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une seule fois. Alors j'ai évité de le faire parce que malgré tout, on travaille. J'allais dire, on a l'impression qu'il y a nous là et puis nos camarades d'avant, traducteurs. Moi, je suis sûr que vous pensez la même chose que moi. Pour moi, on est tous ensemble. J'ai l'impression vraiment d'un effort commun, d'un travail commun. Enfin, je me sens solidaire aussi d'eux. Et j'ai essayé malgré tout, sachant que ce corpus, il était partagé par bon nombre de personnes, de le respecter au maximum pour ne pas surajouter, pour ne pas dévier si c'était gratuit. Donc j'ai changé une fois un titre parce qu'il y avait une sorte de contresens. Oui, c'était la malédiction de Sarnath. Mais la malédiction de Sarnath, si vous voulez, on peut comprendre, est-ce que c'est Sarnath qui est maudit, c'est Sarnath qui va maudire ou c'est Sarnath qui est maudite. Bon, j'ai juste retraduit par la malédiction qui s'abattit sur Sarnath, c'est tout. Mais le reste, c'est Montagnes Hallucinées. Effectivement, si vous prenez le titre anglais, c'est
The Mountains of Madness.
The Mountains of Madness.
At the Mountains of Madness. Aux montagnes.
Montagnes de la folie. Mais si vous voulez, les montagnes, elles sont moins hallucinées qu'hallucinogènes, si vous voulez. Mais, c'est-à-dire qu'elles rendent fous. C'est ce qui s'est passé. Elles rendent fous. Et les montagnes hallucinées, d'ailleurs, ne sont même pas celles.
Mais c'est un très bon titre.
C'est un bon titre.
Alors, et voilà. Donc, je voulais, et c'est pas Pi qui l'a trouvé. C'est pas Pi qui l'a trouvé. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est pas Pi qui l'a trouvé. On a eu des campagnes de jeux de rôle, machin, les montagnes hallucinées. J'allais pas, moi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est. Voilà, c'est mon interprétation des montagnes hallucinées. Et quand je dis interprétation. Je veux dire bien ça, c'est une interprétation parmi d'autres possibles de ça. Donc là, oui, je ne me suis pas perdu.
Il y a des titres français classiques qui me font bondir, et il y en a d'autres pour lesquels j'ai le plus grand respect, comme celui-là. La couleur tombée du ciel, ça me paraît aussi magnifiquement trouvé. Et alors que par contre, bon, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y en a d'autres. Bon,
c'est pas Lovecraft, mais Journal d'un monstre, c'est un titre terrible parce qu'il donne la nouvelle, alors que la nouvelle se découvre, elle fait 3 pages. Donc. Et ça, elle trahit directement la chute, mais en tout cas le propos de la nouvelle, alors qu'on n'est pas censé le connaître.
Je pense à un autre détail qui est à propos de la nouvelle qui est habituellement connue comme À la recherche de Kadath, qui a été retraduite comme La quête onirique de Kadath l'inconnu, dans laquelle, là par contre, la politique du traducteur a été de tout revoir. Et on peut dire, bah, c'est bien, ça donne un bon coup de balai et tout, mais malheureusement, les bestioles qu'on a pris l'habitude de connaître comme les maigres bêtes de la nuit se retrouvent rebaptisées autrement, ça devient les décharnés de la nuit, et là franchement, je trouve que ça perd son charme.
Alors, Maigre Bête de la Nuit, c'était la tradition de Bernard Noël, il y avait ça. Je dirais Bernard Noël, on peut lui reprocher alors un milliard de trucs, mais cette invention des Maigres Bêtes de la Nuit, malgré tout, elle est belle. Moi,
ça sonne bien, quoi.
Je l'ai gardé.
Ça sonne bien.
Ça sonne bien. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres problèmes, parce que c'est très, très curieux. Il y avait chez lui, il y avait les zoubes, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le texte ou pas, c'est des sortes de petites bêtes, un peu, qui peuvent se représenter, des sortes d'écureuils ou de ratons, je ne sais pas quoi, qui vivent dans la forêt avec des champignons. Et il nous dit, moi ça m'avait fasciné, il disait les zougs, ces bêtes qui passent leur temps à prier. Je veux dire, il y a des espèces d'écureuils, ils sont très religieux, et tout, des champignons, ils mangent des champignons puis ils prient, ah oui je vois trop le truc. Et puis en fait en anglais c'est prying, pas praying. Et donc elles passent leur temps à fureter tout partout, c'est terrible.
Alors il y a autre chose quand même à propos de ce texte, c'est que Lovecraft était connu pour son écriture pourrie. Il y a peu de gens au monde qui étaient capables de la lire correctement.
Ouais.
Un d'entre eux, heureusement, est St. Joshi, le grand spécialiste de Lovecraft. Il a fait tout un boulot qui consiste à revenir sur les textes et à donner une version en fait, fidèle du texte original lui-même. Donc on ne peut pas non plus reprocher au traducteur d'avoir bossé sur des versions du texte original qui n'étaient déjà pas bonnes. Par exemple, le praying, je ne sais pas.
Ouais, c'est dur à dire.
Non, mais a priori, c'est parce qu'on a dans Kadath, on a des red masters, c'est des fautes de frappe, c'est pas red, c'est real. C'est pas les maîtres rouges, c'est les véritables maîtres d'eux.
Mais ça ressemble vraiment à.
Je ne sais pas si c'est un truc,
mais red, R-E-D, un E-A-L à l'écriture, peut devenir un red.
Après, ça n'a pas de sens. Il y a un truc, alors, admettons, mais si tu veux, tu as un autre exemple dans une ville où Lovecraft parle d'une tour. Qui est comment dire cerné par des en anglais enfin parce que c'était traduit des galleys des galères. Je veux dire, vous voyez une tour avec des galères, mais en fait c'est des galeries.
Ah oui, le verre avait
sauté. C'est plein de trucs comme ça.
Et est-ce que vous avez des échos de traducteurs étrangers qui galèrent aussi de la même façon que mais, vous, ou est-ce que c'est plus simple?
Bon, je pense que les anglo-saxons s'en sortent plutôt pas mal. Ah, cela dit, je plaisante à moitié parce que j'ai beaucoup d'amis américains, anglais qui sont par ailleurs traducteurs aussi. Enfin, eux, c'est anglais, français, qui me disent ce que je l'entends quand j'ai vraiment. Alors, je vais vous dire une chose. Hein, moi, je fais toujours relire, et si possible par des anglicistes ou même des américains, parce que je doute beaucoup et j'ai vraiment envie de savoir, et que je sais que bah, je fais des fautes aussi, mais ils me disent eux-mêmes, là je vous donne une parole de traducteur américain et fan en plus de littérature de l'imaginaire et fan de Lovecraft, qui me disent que même pour un anglais, c'est-à-dire que je le présente à moitié, même pour un anglais c'est très difficile à lire. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire que Lovecraft, encore une fois, tout à l'heure, je reviens à ce que vous me demandiez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le traduire en faisant quelque chose à côté, j'ai presque envie de vous dire, enfin, ou de transformer légèrement votre question, est-ce qu'on peut le lire en faisant quelque chose à côté? Non, enfin moi j'aurais tendance même à répondre non, c'est-à-dire que Lovecraft, et c'est lui, c'est pour ça qu'il moi, il me plonge dans des états pareils, ou vous le lisez ou vous le lisez pas, ou vous le traduisez ou vous le traduisez pas, mais on peut pas le faire à moitié, on peut pas le lire non plus à moitié.
Sur ces entrefaites, on va s'arrêter, parce qu'on va libérer la salle pour d'autres tables rondes. Merci Sonia, merci Patrice, merci Alida. Merci de nous avoir donné cette belle expérience de Lovecraft.